Voilà, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà, moi je m'entends, mais ce n'est pas là l'essentiel. M'entendez? Voilà, nous sommes très heureux d'être parmi vous, déjà avec une partie d'entre vous hier soir. Nous avons passé vraiment une excellente soirée avec l'hospitalité généreuse de Catherine Tidu et de son futur compagnon et de tous ceux qui étaient avec nous. Nous avons passé vraiment une soirée bénie autour de la parole de Dieu. Donc c'était vraiment une introduction extraordinaire et ce matin je remercie Dieu aussi de ce que nous avons pu être bénis par que ce soit la louange, les prières spontanées, la communion des saints, dons spirituels. Nous sommes vraiment bénis par tout ce que Dieu est et par tout ce que Dieu fait au milieu de nous. Nous étions dimanche dernier dans une église à Douarnenez et donc évidemment c'est une église qui date de 1890 mais cependant qui est une petite église puisqu'à Musillac c'est une zone rurale. Et nous sommes habitués à évoluer dans des églises de maisons élargies, 60, 80, 50, 30, enfin voilà. Et cela fait drôle d'être dans une église plus importante. Quand je suis né de nouveau, c'était dans une église de 500 personnes hein, sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que j'étais habitué aux grosses églises. Et quand je suis arrivé en Bretagne, comme nous habitons dans le Morbihan, du coup, je me suis habitué aussi aux églises familiales. Et dans tous les cas, à chaque fois, je suis toujours touché parce que la famille de Dieu, elle est belle. Vraiment, la famille de Dieu, elle est belle. Et l'Église du Seigneur, elle est belle. Et qu'on le soit 3, qu'on soit 20, qu'on soit 100 ou 1000, l'Église du Seigneur, elle est belle. Alors, on vous remercie avec Isabelle, mon épouse, David, notre fils, ainsi que nos amis donc Gérard et son épouse Françoise Lachapelle, qui font partie aussi de notre assemblée. On vous remercie de votre accueil et je remercie donc tout particulièrement Robert de m'avoir invité. C'est un honneur, c'est une grâce que de pouvoir partager l'amour fraternel, c'est vrai, et la parole de Dieu qui nous tient à cœur. Parce que c'est par elle qu'on est né de nouveau, et c'est par elle que nous pouvons demeurer dans la foi, et c'est par elle que nous verrons, nous entendrons le son de l'archange, la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu quand Jésus reviendra. Et nous savons qu'il revient très bientôt. Alors nous voulons être prêts pour son retour, et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, je vous invite simplement ce matin à ouvrir votre cœur à ce que Dieu dit dans sa parole. Nous ne faisons que transmettre, nous ne faisons qu'être des serviteurs inutiles, mais puissiez-vous aussi ouvrir votre cœur à la révélation de la parole de Dieu. Voilà, vous avez le bonjour de l'église de Musillac, qui se trouve, ce n'est pas une ville connue comme Rennes, comme Nantes, donc c'est à 30 km de Vannes, en direction de la Roche-Bernard, et après Musillac, Pontchâteau, Nantes, voilà. Et nous avons à cœur d'implanter dans la presqu'île guérandaise, si vous connaissez les personnes qui sont là-bas, Dieu voulant, nous démarrons prochainement une petite œuvre, enfin, je dis petit parce que quand ça démarre, c'est souvent comme ça, sur la presqu'île guérandaise. Donc toute la presqu'île de Guérande n'a pas d'église officielle sur place et il y a 76 000 habitants en hiver, 350 000 en été et nous aimerions voir les croyants se rassembler parce que j'ai beaucoup aimé aussi le don spirituel. C'est vrai que si nous pouvons être unis sur la terre, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est parce que Dieu nous a déjà réunis dans les cieux. Et en fin de compte, on ne fait que ni plus ni moins être le prolongement de ce que Dieu a fait en haut en étant unis ici-bas. Et Dieu rassemble son peuple. Dieu rassemble son peuple parce qu'il revient bientôt. Alors Dieu se plaît à rassembler son peuple. Et il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Alors merci pour la prière de mon frère sur le message. Je n'aurai pas moi-même à prier pour l'introduction. Mais je vais vous lire quand même deux passages que nous allons avant de développer. C'est le thème de ce matin. C'est Jésus qui est notre sagesse, il est devenu notre sagesse de par la volonté de Dieu, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. En fin de compte, si je devais vous donner le secret de la vie chrétienne, ben ça ne serait plus un secret. Mais je vous le dis quand même, le secret de la vie chrétienne, c'est Christ lui-même. Et il est dit de Philippe, l'évangéliste, c'est pas moi parce que je serais très âgé sinon, mais dans le livre des Actes, quand il prêcha en Samarie, il prêcha non pas sur le Christ, il prêcha le Christ. Et nous avons besoin non pas d'avoir des connaissances sur Dieu, nous avons besoin de connaître Dieu lui-même. Et donc c'est une personne que nous allons partager ce matin, et c'est la personne du Christ qui veut nous faire du bien à chacun. Alors le premier passage dans Colossiens, au chapitre 1, verset 12. Nous lisons les versets qui rendent hommage, louange à Dieu. Vous savez, Blaise Pascal disait que le Premier Testament à Jésus pour attente. Et le Nouveau Testament, le Second Testament à Jésus pour modèle. Mais tous deux ont Jésus pour centre. Donc Jésus est le centre de l'univers, le centre du cœur de Dieu et le centre de la parole de Dieu. Et là, il y a un hommage qui lui est rendu au verset 12, au chapitre 1er. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et nous lisons le second passage, un petit peu avant, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, et par lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, Jésus a été fait pour nous, justice, sanctification, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie ou qui veut se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Vous savez, c'est Dieu qui nous a placés en Jésus. Si vous voulez, ma main, c'est Dieu, la feuille, c'est nous-mêmes, et la Bible, c'est Jésus. Et Dieu lui-même nous a placés en son Fils. Donc, si je jette la Bible dans une rivière, rassurez-vous, je ne le ferai pas, où est la feuille? Elle est aussi dans la rivière. Si je mets la Bible sur une étagère, où sera la feuille? Elle sera sur l'étagère. Dieu nous a placés en son Fils. Et comme son Fils est retourné à la droite de son Père, l'Écriture dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il le veut, et il nous a fait miséricorde en nous plaçant en son Fils. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Être vainqueur, c'est combattre pour remporter une victoire. Être plus que vainqueur, c'est être au bénéfice d'une victoire qu'un autre a remportée à notre place, qu'un autre a dû combattre pour nous. Donc, effectivement, nous sommes en Jésus et non plus en Adam si nous l'avons rencontré. Si ce n'est pas le cas, plaise à Dieu que nous puissions ce matin le rencontrer. Alors, je commencerai par le fait que nous avons lu que Jésus était devenu notre sagesse. La Bible dit que la sagesse, dans le livre des Proverbes, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie, mais que nous ne pouvions pas encore accéder, même si c'était dans le plan de Dieu, mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal auquel nous ne devions pas toucher les fruits. Et malheureusement, nous avons fait le mauvais choix. Et l'Écriture dit que Jésus est l'arbre de vie. Et Jésus et la sagesse personnifiée. Non pas Jésus a de la sagesse, Salomon, le roi Salomon, est un homme qui a reçu le plus de sagesse qu'un homme puisse recevoir sur la terre. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne simplement, sans reproche, hein, mais qu'il la demande évidemment avec foi. Et Salomon, s'il était rempli de sagesse à cause de son humilité, de sa prière humble, que Dieu a été touché, lui a donné cette sagesse et bien plus encore, cependant, Jésus est la sagesse. C'est toute la différence. Et Dieu nous a placés en son Fils pour que sa sagesse puisse s'exprimer, s'imprimer en nous et s'exprimer au travers de nous. Alors, quelqu'un me dira, mais comment se conduire d'une manière sage? L'Écriture, là aussi, nous vient en aide puisqu'elle nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse, mais ce n'est pas que le commencement. Avoir la crainte de Dieu, c'est être sage. la femme vertueuse, celui qui veut trouver un compagnon, une compagne, si je devais lui donner le premier critère, c'est la maman du roi Lemuel qui disait ça dans le livre des Proverbes, au chapitre 31. Si il veut avoir un repère de savoir si c'est le compagnon ou la compagne qu'il lui faut, bien sûr, Dieu nous dirige de l'intérieur, mais ça n'empêche pas de pouvoir éprouver et avoir des repères aussi extérieurs. En tout cas, l'Écriture en donne, c'est que la personne est la crainte de Dieu. C'est pas qu'elle soit le plus beau, la plus belle, le plus riche, qu'elle exerce les dons et tout ce que l'on veut, c'est qu'elle est la crainte de Dieu ou qu'il est la crainte de Dieu dans son cœur. Cette femme, cette sœur ou ce frère, c'est celui-là ou celle-là qui sera loué. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Et il dit de Jésus qu'il respirait la crainte de l'Éternel. Voici mon serviteur respirera la crainte de l'Éternel. Des fois, on dit, le chrétien, la respiration du chrétien, c'est la prière. Ben, on n'a pas tout à fait faux. Parce qu'effectivement, l'Écriture dit de prier sans cesse. Et si l'on ne respire pas d'une manière continuelle, on meurt. Donc, effectivement, nous sommes appelés. Mais ça va au-delà. C'est que c'est la disposition intérieure de notre cœur à avoir la crainte de Dieu, de lui déplaire, pas la crainte de Dieu d'un Dieu fouettard, parce que Dieu nous aime. Là encore, si Dieu est sage, Dieu est amour. C'est plus qu'il a de l'amour. Bien sûr qu'il a tant aimé qu'il a donné son Fils, il a prouvé son amour par le sacrifice consenti à la croix. Mais Dieu est amour. Et effectivement, nous n'avons pas à le craindre parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est un fait que l'amour de Dieu, en présence de Dieu, on ne se sent pas jugé, on se sent aimé. Et si on est conscient que Dieu nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons dans la société, c'est des rapports d'intérêt, mais pour ce que nous sommes, pas de ce que nous faisons, pas par rapport à ce que nous représentons même, à nos yeux ou aux yeux de notre famille, aux yeux de la société, aux yeux de l'Église, qui est aussi une société, mais pas aux yeux de tout cela, Dieu nous aime pour qui nous sommes. Dieu nous aime, parce qu'il nous a jugés dignes d'être aimés à cause du sacrifice de son Fils Jésus. Donc, si Dieu m'aime, suis-je plus grand que lui pour ne pas accepter d'apprendre à m'aimer ? Suis-je plus grand que Dieu ? Est-ce que Dieu s'est trompé ? Dieu nous aime parce qu'il est amour. C'est dans sa nature. Et le fait qu'il ait prouvé son amour est une démonstration de ce qu'il est. Il a fait parce qu'il l'est. Et effectivement, nous sommes appelés, nous aussi, au niveau de la sagesse, d'être dans une disposition de crainte, de le déplaire à notre Dieu, de lui être désagréable. Et cette disposition nous amènera à prendre conscience que sans lui, nous ne pouvons y parvenir. Alors si nous ne pouvons pas parvenir à lui plaire et à lui être agréable, alors que c'est le commencement de la sagesse, de chercher à plaire à Dieu, alors en fin de compte, on s'apercevra qu'on a besoin de sa grâce, puisque sans lui, nous ne pouvons. Alors nous arriverons à une vie de prière, parce qu'elle deviendra indispensable à pouvoir vivre et marcher selon la volonté de notre Dieu. Et effectivement, en cela, on pourra dire que notre respiration sera aussi de prier. Jésus respirait la crainte de l'Éternel et avait une vie de prière. C'est un corollaire de notre disposition intérieure. C'est très important, la disposition intérieure. Dans la parabole des talents, il est dit que, justement, celui qui n'avait qu'un talent, c'est pas parce qu'il n'en avait qu'un, parce que là aussi, on n'est pas tous égaux. Certains me diront, ah ben c'est vrai, si. On est tous égaux par rapport au fait que Dieu nous aime pour qui nous sommes. On est tous égaux par rapport au fait que Dieu désire que l'on soit comblé et on peut l'être par sa présence divine en nous. On est tous égaux par rapport au fait que Dieu nous jugera par rapport à nous-mêmes et pas par rapport à autrui. Et que Dieu nous place dans un couloir pour qu'on s'y tienne en rapport de ce qu'il a prévu et préparé d'avance pour nous. Mais on n'est pas tous égaux dans les mesures de foi. Certains diront, mais moi, je n'ai pas la foi d'Abraham. Si, tu as la foi d'Abraham dans le fait que la foi que tu as dans ton cœur est la foi de Dieu qui est de la même nature que celle qu'avait Abraham. Mais ce n'est peut-être pas la même mesure. Dans les talents, celui qui avait reçu un talent, ce n'était pas celui qui en avait reçu cinq. Mais ce n'était pas le problème. Pas le problème. Dieu nous jugera par rapport à nous-mêmes. Et on est tous uniques, tous atypiques, et on est tous appelés à marcher selon ce que Dieu a prévu pour nous. Donc à partir de là, plus de comparaison, plus de jalousie, plus de complexe, c'est merveilleux, parce que nous sommes dans un couloir unique que Dieu a tracé avant même que nous étions dans le ventre de notre mère pour que nous l'empruntions et que nous puissions y vivre simplement, humblement. Et celui qui avait qu'un talent, ce n'était pas le problème qu'il avait qu'un talent par rapport à celui qui en avait cinq, c'est qu'il avait une mauvaise disposition dans son cœur. C'est à cause de ça qu'il n'a pas fait fructifier le talent. Celui qui en avait deux, qui en avait cinq, l'ont fait fructifier. Quand le maître est revenu, « Tiens, tu m'as donné deux talents, en voici deux autres. Tu m'en as donné cinq, en voici cinq autres. » Et celui qui avait qu'un talent, « Tiens, je te rends ton talent. » Ce n'était pas le problème qu'il n'avait pas fait fructifier le talent. Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Dieu n'attend pas après nous. C'est lui et lui seul qui bâtit son Église. En nous rendant certes participants, c'est un grand mystère, c'est un fait et un mystère à la fois. Mais c'est Dieu qui est seul sage et souverain. Mais qu'est-ce qu'il répondra à celui qui avait un talent? Il dira, je sais que tu es un maître dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Vous voyez les pensées qu'il avait sur son maître? Vous avez vu la dureté de son cœur, cette incrédulité, hein? Et parfois, en tant que croyant, nous devons veiller sur notre cœur plus que sur le reste, parce que notre disposition intérieure, c'est ce qui nous permettra de nous remettre en cause d'une manière permanente et ainsi apprendre à vivre et à marcher dans les voies du Seigneur, dans la crainte de déplaire à notre Seigneur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, dans cette crainte de déplaire à son Seigneur. Je dis souvent comme à Abraham, je le dis parce que Dieu me l'a montré pour moi-même aussi, c'est qu'il est dit à un moment donné à Abraham, au chapitre 17, je crois, de Genèse, Dieu dit « Marche devant ma face et sois intègre », comme si Dieu nous parlait personnellement. « Ne regarde pas autour de toi, toi, oui, on se retourne, non, 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 toi, marche devant ma face », donc c'est la relation verticale, « et sois intègre ». Et c'est important qu'on ait une cohérence dans notre marche avec Dieu, parce que Dieu, lui, n'est que cohérence. Dieu ne comprend pas l'incohérence. La duplicité, l'hypocrisie, Dieu ne la conçoit pas. Parce que, avant de dire, nous sommes. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu nous a placés en son Fils et que nous sommes en Jésus. Et si nous sommes, alors nous sommes appelés à dire ce que nous sommes. Nous parlerons un nouveau langage, de nouvelles langues, certes pour celui qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais aussi un langage de foi. Ils parleront de nouvelles langues, un langage de foi, tes paroles te font reconnaître. Parce que nous dirons ce qu'il y a dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si nous disons, nous devons accomplir. Et si entre ce que nous faisons n'est pas en rapport de ce que nous disons, ou que ce que nous disons n'est pas en rapport de ce que nous pensons, nous sommes en dichotomie. Et nous devons être intègres. Marche devant ma face et sois intègre. Pas par rapport uniquement au péché ou au mal, mais tout simplement, aie une vie cohérente. Et Dieu désire que nous soyons et que nous ayons une disposition intérieure qui nous permette d'être vrais. On est ce que l'on est et on n'est pas ce que l'on n'est pas. C'est tout simple. Et Dieu nous aime pour qui nous sommes. Et pas pour ce que nous avons pas, que nous avons fait, nous avons pas fait, des écueils que nous avons eus, que nous avons pas eus. Dieu nous aime, point barre. Jésus, Dieu a fait de Jésus notre justice. Jésus a été fait pour nous sagesse. Il est la sagesse même et en lui, nous devenons sages. Mais en Jésus, nous sommes aussi justifiés. Quelqu'un dira, mais un enfant, c'est innocent. C'est vrai, je confirme. Mais c'est innocent, mais ce n'est pas forcément juste. Parce qu'un enfant, c'est un innocent, mais il n'est pas injuste. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Et que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors certains diront, oui, mais bon, il ne pêche pas tellement, lui, hein, il a une vie exemplaire. Le fait de pécher, ce n'est pas parce qu'il ne pêche pas qu'il n'est pas pécheur. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'on est pécheur que l'on pêche. Parce qu'on est pécheur par naissance, à cause du fait qu'on est né en Adam. Et que dans le jardin d'Éden, on a désobéi. Certains disent, mais j'étais pas là, et puis j'aime pas les pommes, j'aurais pas mangé une pomme. Déjà, on ne sait pas si c'était une pomme. Et je peux vous dire qu'on l'aurait certainement fait nous aussi. Dieu ne s'est pas trompé, ou nous incluant en Adam. Dieu ne s'est pas trompé. Mais toujours est-il que si nous sommes pécheurs de nature, et qu'il n'y a pas même un juste et pas même un seul, les enfants y compris, Dieu aime le pécheur. Et par son Fils, qui est le seul juste, il justifie. Et un saint, c'est un pécheur justifié. Donc, on n'est plus des pêcheurs, mais on devient des saints. Alors, bizarrement, je vous l'accorde. Il y a des saints qui pêchent, et il y a des pêcheurs qui se conduisent bien. Des fois, on n'y trouve plus nos repères. Que Dieu nous aide à devenir des saints qui haïssons le mal et le péché jusqu'au point de ne plus pécher, aspirer à la perfection. Mais dans tous les cas, quand on rencontre Jésus, on passe des ténèbres à la lumière, de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de l'ennemi à l'amour du Père. C'est une vérité éternelle. Jésus devient notre justice. Oh, combien c'est important. Et c'est par son sang, le sang d'un juste, puisque Jésus était le seul juste, que des injustes que nous sommes avons pu être purifiés. Et si nos péchés étaient rouges comme le cramoisi, tant nous étions de grands pécheurs devant l'Éternel, le sang de Jésus nous lave et nous purifie au point qu'ils deviennent blancs comme la neige. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et c'est pour cela que, juridiquement, nous sommes devenus des justes. C'est juridique. C'est un acte juridique. Le problème, c'est qu'on confond la vérité et la réalité de nos sens. La vérité éternelle, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par la croix. Et que son sang nous a lavé et nous purifié de tous nos péchés, c'est un acte juridique. Si on est héritier d'une grande fortune d'un oncle aux États-Unis, mais qu'on n'a que 14 ans, juridiquement, nous sommes héritiers. Mais nous n'avons peut-être pas encore l'âge légal de recevoir cet héritage. Mais nous le sommes. Nous le sommes. Qu'on se sente disant oh « non, moi je ne me sens pas héritier », non, qu'est-ce que ça change ? Nous le sommes. Nous le sommes. Et juridiquement, nous avons été justifiés. Et le problème dans l'homme, à cause des mensonges de l'ennemi auxquels nous avons tendance à croire facilement, c'est qu'on va se sentir coupable, c'est-à-dire c'est la culpabilité. J'ai bien aimé la prière d'un frère ce matin, Jean-Luc, notre frère Jean-Luc. Il faut qu'on soit délivré de toute culpabilité parce que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Et ce n'est pas parce que, vous savez, bon, c'est sûr, que Dieu nous délivre de la culpabilité, mais il vaut mieux se sentir condamné en ayant été justifié que se sentir les mains propres en étant toujours sous la condamnation. Un jour, on dit à quelqu'un, mais que dois-je faire pour aller en enfer ? On fait rien, reste comme tu es, tout va, tu y vas tout droit. Nous sommes condamnés par naissance, mais justifiés par le sang de Jésus, parce que nous devenons une nouvelle création. Si un homme ne naît de nouveau, par la repentance et la foi en Jésus, à cause de son sang qui seul avait pouvoir de nous laver, de nous purifier pour nous rendre justes, alors, juridiquement, nous sommes devenus des saints, héritiers de la gloire. Parce que justifiés, heureux l'homme à qui on n'impute point son péché. Alors, puisque nous sommes justifiés, débarrassons-nous de toute pensée de culpabilité. Parce que c'est les attaques de l'ennemi, les traits enflammés du malin. Il est là pour nous accuser jour et nuit. C'est comme dans Job, où on voit qu'il se présente pour nous accuser. Et parfois, même quand il ne nous accuse pas nous-mêmes, même quand ce n'est pas lui qui nous accuse, par ses traits enflammés, c'est nous-mêmes qui nous accusons en disant « Mais non, là, ce que j'ai fait, je ne peux pas me le pardonner. » Alors, par notre propre justice, on essaye de se racheter, on essaye des fois de payer un prix en disant « Vu ce que j'ai fait, allez, je paye ça, comme ça, je m'acquitte, etc. » On se met sa petite sauce. Mais c'est peine perdue. Parce que c'est Jésus seul qui nous a justifiés et c'est Jésus qui désire qu'on soit libéré de toute pensée de condamnation car en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, s'il n'y a plus de condamnation juridiquement parce que la vérité, elle est éternelle, il faut que la réalité de notre ressenti, de notre expérience personnelle, de ce que nous pensons, puisse s'aligner à ce que l'Écriture enseigne. C'est la vérité qui doit triompher. Ta parole est la vérité. Et nous devons croire la vérité et pas croire ce que nous ressentons ou ce que nous pensons ou ce que nous concevons. Ça vaut ce que ça vaut. Mais croire ce que le Dieu éternel de toute éternité nous dit au travers de sa parole. Tu es juste, tu as été justifié. Alors pour le chrétien, vous savez, un jour, je raconte juste une anecdote que j'avais donnée aussi à Edouard Nenet, mais c'est un homme qui avait fait les 400 coups puis qui va dans une ville pour annoncer l'évangile aux États-Unis et il y avait son affiche dans les magasins, tout ça. Et puis il y avait une personne qui avait été élevée aussi dans cette ville et qui était un copain à lui, qui le reconnaît. Quoi ? Il va nous faire le prêchi-prêcha, lui, avec tous les coups qu'il a fait ? Et donc il a dit, ça ne va pas se passer comme ça parce que moi je le connais celui-là. Il est allé à l'église juste un peu avant qu'il intervienne. Il a mis sur le pupitre « Tiens, Gaston, tu crois que je ne t'ai pas reconnu ? Rappelle-toi ce qu'on a fait. » Voilà. Et puis, c'est à son tour de venir au pupitre, donc, et puis il voit cette feuille sur le pupitre, et il dit, bah, écoutez, je ne sais pas qui a écrit ça sur moi, je ne sais pas si c'était signé, mais je peux vous dire que c'est tout à fait la vérité. J'étais cet homme-là, et je viens vous partager aujourd'hui celui qui m'a pardonné, celui qui m'a justifié. Donc, il n'était pas dans un calcul de dire, ouais, mais je vais essayer de me racheter, je vais essayer. Non, ok, j'ai failli. Ok, je suis tombé cette fois. Ok, tant que chrétien, j'ai fait pire que pendre. J'ai fait même pire que si je n'avais pas été au Seigneur. Je ne comprends rien. Mais ok, ben c'est du passé. Mais le sang de Jésus, si on se repent, nous lave et nous purifie de tout péché. Et s'il le fait pour un pécheur qui n'est pas encore né nouveau, à plus forte raison pour son enfant qui est tombé. À plus forte raison. Dieu nous aime, n'oubliez pas. Pas pour ce que nous faisons ou ce que nous n'avons pas fait. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Pour qui nous sommes? Pour qui nous sommes? Donc, il demande simplement qu'on revienne à lui. Il nous tend les bras et il nous attend depuis si longtemps. Alors, comment vivre d'une manière juste? Ben, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et pratiquer la justice, dans l'Écriture sainte, par rapport à la nouvelle alliance, à la seconde alliance, c'est vivre par le moyen de la foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et la justice est liée à la foi. Bien sûr que lorsqu'on vit dans la foi au Fils de Dieu, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, si je vis encore dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ça implique de pratiquer des œuvres bonnes, des œuvres que Dieu a préparées d'avance, donc de vivre d'une manière juste, bien évidemment. Mais vivre d'une manière juste devant Dieu, c'est avant tout vivre par le moyen de la foi. Abraham crut à Dieu, le père des croyants, et cela lui fut imputé à justice. Alors, vivre par le moyen de la foi, parfois certains diront, oh là, c'est compliqué, parce qu'on ne voit pas, c'est invisible, détrompez-vous. La foi de l'homme, oui, aujourd'hui, le New Age, tout ça, on va vous dire, allez, pensez, vous voulez acquérir une voiture, mettez un poster de voiture, et puis concentrez-vous, la voiture viendra. Alors, bon. C'est de l'autosuggestion, vous voyez. Et on se projette, ça a ses limites, ça a vraiment largement ses limites. Mais la foi n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Faut pas avoir, il ne s'agit pas d'avoir une forte personnalité, de dire, bah oui, c'est un homme qui a du tempérament, c'est un homme de foi, il a un caractère, quel rapport. Ça n'a rien à voir. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi s'appuie sur ce qui est écrit, ta parole est la vérité, et la foi se nourrit de la vérité, mais aussi de la parole écrite et révélée. Mes paroles sont esprit et vie, de ce que Dieu peut nous dire. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre, quand il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, et Jésus lui dit, ben viens, sur la parole de Jésus, l'apôtre Pierre va marcher sur l'eau. Il se trouve qu'à un moment donné, il ne regarde plus à la parole qu'il a entendue, qu'il a reçue, il regarde aux éléments qui l'entourent, donc il regarde à nouveau à lui-même, et là il se dit, ben non, c'est pas logique de marcher sur l'eau, pouf. Mais tant qu'il s'appuyait sur ce que Dieu disait, il exerçait la foi et il honorait le Seigneur. Donc la foi, c'est ni plus ni moins répondre à l'initiative de Dieu. Dieu ne nous demandera pas d'imaginer ce qui n'existe pas. Hein, c'est comme la guérison, des fois on dit, voilà, t'es guéri, hein, t'as la foi, t'es guéri, oui, je suis guéri, merci, je suis guéri. Des fois, ça ressemble à rien. Mais si Dieu donne une parole dans le cœur et qu'on reçoit cette guérison et par la foi, alléluia, on confesse. Parce que, n'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, que ces paroles ne s'éloignent pas de ta bouche dans la mesure où elles sont les reflets de ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Et la foi, la confession de foi, n'est ni plus ni moins une confession de ce qu'au préalable on aura reçu de Dieu. Parce que la foi n'est qu'une réponse. C'est Dieu seul qui crée, c'est Dieu seul qui nous guérit, c'est Dieu seul qui nous parle. Et la foi, c'est la réponse de notre disposition intérieure à ce que Dieu nous dit ou à ce qu'on a pu saisir. La foi, elle a un côté humble, parce qu'elle dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu, donc recevoir, c'est quand même une marque d'humilité, mais elle a un côté hardi, à tous ceux qui ont cru, qui s'approprient. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, on va s'approprier. Ah, Dieu me le donne, ah, je ne laisse pas ma part aux autres, ah, c'est ce que Dieu me donne, je le prends. Tout ce qui vient de Dieu est bon. On dit des fois, dans le cochon, tout est bon. Tout ce qui vient de Dieu, je prends. à plus forte raison. Tout ce qui vient de Dieu, je prends. Ce sont les violents qui sont part du royaume de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, je prends. Et la foi saisit ce que Dieu donne. Je ne vais pas faire la... Je comprends pas, mais je ne fais pas la fine bouche. Seigneur, tu me le donnes, je prends. Tu es sage. Et tu es seul sage. Il n'y a ni conseil, ni sagesse, ni intelligence en face de l'Éternel. Tu me donnes, je prends. Donc voilà, la foi, c'est à la portée de tous. C'est répondre à ce que nous entendons de la part de Dieu au travers de ce que nous lisons, que nous recevons, et au travers de cette parole, parfois, qui se détache du texte, qu'on appelle un réma, la révélation. On l'a entendu tout à l'heure aussi. Dieu veut répandre sur nous un esprit de sagesse et de révélation. Alors, on poursuit. Jésus, notre sanctification. C'est là où ça se complique. C'est que Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez, soyez soumises à vos maris. Mais bon, c'est réciproque dans les deux cas, de toute façon. Une femme doit aimer son mari et un mari aussi écouter sa femme. Hein, ça va de soi. Mais dans tous les cas, nous sommes appelés comme Jésus qui s'est sanctifié pour son Église, comme le mari doit, pour son épouse, afin de la sanctifier. Et nous sommes appelés à mettre à part. Sanctifier, c'est mettre à part. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Donc nous sommes appelés à nous sanctifier. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors évidemment, Jésus, pour le salut, c'est facile, un peu comme le brigand sur la croix. On dit le bon larron. Ils étaient tous les deux mauvais. Parce que s'ils étaient sur la croix, eux, il y avait de bonnes raisons qu'ils soient aux côtés de Jésus. Mais il y a, dans les deux mauvais, il y en a un qui s'est repenti. Donc, mais il n'était pas bon, ce n'est pas le bon larron, le mauvais chien. Deux mauvais larrons, dont un se repent. Et en fin de compte, quand on vient à Jésus, il nous cueille souvent au travers des passages difficiles de notre existence. Bon, ça peut être certains, ils se tournent vers à l'âge de 5 ans, ils ont le privilège, la chance extraordinaire de naître dans un foyer qui ont reçu cette grâce. Enfin, c'est merveilleux. Enfin, ça aussi, ils sont doublement redevables de cette grâce. Et puis d'autres vont le connaître plus tard, d'autres à la fin de leur parcours terrestre. Mais gloire à Dieu, l'Ecclésiaste dit, c'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin. L'important, c'est de l'avoir rencontré, parce qu'il aurait mieux valu ne jamais naître que d'avoir vécu sans l'avoir rencontré Jésus. Il aurait mieux valu ne jamais naître, évidemment. Donc, effectivement, l'important, c'est de rencontrer. Et Jésus est la source de notre salut. Il est l'objet de notre foi, mais aussi il est l'instrument, il est l'objet, mais il est aussi l'auteur de notre salut. Donc, effectivement, Jésus est notre source. Mais le fait que Jésus soit notre source, on l'accepte assez facilement, parce que quand on vient à lui, on vient parfois à lui dans un drôle d'état. Donc, c'est plus simple. Mais le problème, quand on dit « oui, je vais mourir à moi-même », c'est faire fausse route, parce que le « moi » fera tout sauf mourir. Ne demandez pas au moi de mourir. Il fera tout ce que vous voulez, mais il ne mourra jamais. Il ne voudra jamais. Alors, il fera semblant de mourir. Ah, je suis mort. Mais il est bien là. Il est bien présent. Dans le chrétien, il y a toujours de l'orgueil. Dans le chrétien, force est de constater. Je parle pour moi. Mais hélas, si j'étais seul, je dirais, ben, Seigneur, aie doublement pitié de moi. Mais des fois, je peux des fois aussi voir en d'autres, même si ce ne sont que des pailles par rapport à ma poutre. Mais cependant, il y a parfois, hélas, encore de l'orgueil. Il y a de l'incrédulité. C'est drôle de dire ça. Hein, je crois dans l'incrédulité. Mais pourtant, parfois, c'est ce que le Seigneur, en tout cas, m'a révélé. L'iniquité, le péché, ça ne devrait pas. Hein, un enfant de Dieu, c'est pas normal, je vous l'accorde. Mais... Donc, effectivement, quand on dit « je vais mourir à moi-même », c'est pas possible, c'est antinomique, parce que le moi ne mourra jamais. Il fera semblant, oui, ça oui, très fort, mais il ne mourra jamais. Par contre, nous sommes morts en Christ. Et la sanctification, c'est la croissance de Christ en nous. En un mot, si Jésus est notre source pour venir au salut, je viens aux sources du salut, il veut être notre seule ressource. Et c'est là où le bât blesse. C'est quand on vient à Dieu, il nous reconstruit, parce que parfois on vient d'une manière blessée, on a été blessé, que ce soit des fois dans la famille, on a été abusé, il y a eu des choses terribles. Et puis Dieu nous reconstruit, on se sent aimé dans une nouvelle famille spirituelle. Et puis on se dit, oh, c'est merveilleux, j'ai de la valeur, on prend conscience qu'on a de la valeur, parce qu'on en a. Et donc on dit, ah, Seigneur, tu as choisi le bon numéro, tu ne vas pas le regretter, hein, Seigneur. Et c'est là que tout se complique. Et l'apôtre Paul l'aura connu à ses frais, Parce que quand il a rencontré Saul de Tarse, Jésus sur le chemin de Damas, il dira dans le Romains au chapitre 7, « Misérable que je suis, jusqu'à quand ? Qui me délivrera ?» Parce que jusqu'avant, ce n'était pas un problème pour lui, il suivait ce qu'il pensait être juste, il mettait à mort les chrétiens, tout allait bien, puisqu'il était dans sa logique de fonctionnement. Mais lorsqu'il a eu la révélation de Jésus, « Qui es-tu ? » Et Jésus, lui, il a eu la rencontre avec le ressuscité. Ben après, il a dit, ben mince alors. Ah ben, il a changé du tout au tout, on est bien d'accord. Et après, il a voulu plaire à son Dieu, ce qui est normal. Mais le problème, c'est qu'il cherchait à plaire avec ses propres moyens, avec ses propres forces. On a entendu une sœur ce matin, j'ai bien aimé aussi dans la prière, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il le dira, « Ma grâce te suffit. » Et comme il cherchait à plaire au Seigneur, il n'en pouvait plus. Il dira, misérable que je suis, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi et je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est terrible ça. Et je ne fais pas le bien que je voudrais. On a entendu aussi une sœur ce matin, pour le pardon. Le pardon, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est comme pour aller au travail. Si on va dire, ah non, moi je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas aller au travail parce que comme je ne me sens pas vrai devant l'entreprise, non, moi je suis quelqu'un de vrai, non, je ne suis pas hypocrite. On ne se pose pas la question. On va au travail parce qu'on veut la paye à la fin du mois. Bon, l'affaire est classée. Et pour le pardon, c'est des fois un peu pareil. Oh non, après ce qu'il m'a fait, je ne me sens pas. J'attends qu'il y ait un déclic. On peut attendre parfois longtemps. Dieu nous demande de pardonner. Le déclic viendra ensuite. Je vais aller au travail et Dieu va me redonner les forces pour y parvenir. Je décide de pardonner. Le fils prodigue, il n'a pas dit « j'attends le déclic ». Non, il a dit « je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai « j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Donc il s'est remis en cause lui-même et puis après il s'est mis en marche. Et oui, le pardon c'est pareil, c'est une affaire de décision, ce n'est pas une affaire de sentiment. Ouais. C'est une vérité de la palisse, hein. Mais si c'était une affaire de sentiment, il n'y aurait plus besoin de parler de pardon, ça se ferait naturellement. Si on demande qu'il y ait un pardon, c'est parce que justement, ce n'est pas évident, ça ne va pas de soi. Donc si ça ne va pas de soi, c'est que les sentiments n'y sont pas. Et donc si les sentiments n'y sont pas, il faut bien s'appuyer sur autre chose. Et c'est toute une affaire de volonté, c'est comme dans l'amour. Dans un couple, c'est avant tout une affaire de volonté. Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Et il se trouve que les sentiments, ensuite, viennent pour donner de la vie à cette expression, à cette volonté intelligente et constructive. Donc les sentiments sont là pour corroborer, pour bien sûr. Ben, le pardon, c'est aussi une affaire de décision, et ce n'est pas une affaire. Et donc c'est lorsqu'on se met en marche que Dieu met les sentiments qui, en allant vers pour aller pardonner, c'est là où les sentiments prennent le relais et qu'on s'aperçoit que ce qui était impossible, 5 minutes avant, devient presque un plaisir. Quand je me suis converti, au tout début, je me rappelle, il y avait une personne qui ne pouvait pas me saquer, moi non plus, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je vivais sans Dieu. Et puis, quand je le vois dans la rue, je venais de me convertir, hein, mais je n'ai pas dit, ah, oula, je le reconnais, alors maintenant, tu es chrétien, il faut que tu l'aimes, il faut que tu... Voilà. Bonjour, ça va, je suis content de te voir. Non, parce qu'il m'a pris de court, il m'a traversé. Oh, comment, j'étais heureux de le voir, mais vraiment heureux. Et lui, il me regardait avec des yeux, mais c'est après, hein, sur le coup, il était là, il ne comprenait pas, il perdait ses repères, parce qu'il voyait, vous savez, quand c'est sincère, quand il y a les gens, ça se voit, enfin, vous savez, les yeux sont souvent miroirs de l'âme. Et donc, sur le coup, il était hagard. Mais moi, c'est après que j'ai dit, mais pourquoi il m'a regardé comme ça ? Ben oui, j'ai compris. J'étais en train de vivre ce que lui ne vivait pas encore, parce que l'amour de Dieu avait été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et donc, j'avais décidé de vivre et de marcher dans la lumière. Ce qui fait que si on ne peut pas mourir à nous-mêmes, on peut renoncer à soi-même, ce qui est totalement différent. On meurt en Christ. L'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, Christ a versé son sang pour nous laver de nos péchés, mais a crucifié notre vieil homme à la croix pour être délivré de nous-mêmes. Par Jésus, j'ai été réconcilié avec le Père et il n'y a juridiquement plus de condamnation et par là même, il ne devrait plus avoir de culpabilité, je dis bien par rapport à notre marche avec lui. Mais par sa croix, j'ai été délivré du vieil homme pour mourir en Christ et pour avoir la force de renoncer à mon moi. À mon moi. On dit souvent que l'amour propre n'est pas toujours si propre que ça. L'égoïsme, il n'y a que moi. Tout pour ma figure, hein, tout pour moi, les autres n'existent pas. La susceptibilité, hein. Oh, c'est pas vrai. Je veux dire, mais quand même, quand même. On est comme ça, c'est comme ça. Mais Dieu nous aime, rassurez-vous, Dieu nous aime quand même. La propre justice dira, il ne sait pas qui c'est vraiment, il ne sait pas qui il a eu affaire. Hein. Ah ouais, là par contre, il aura un os, hein, parce que je ne suis pas n'importe qui. Hein. Première nouvelle. Si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. On croit être quelqu'un ou quelque chose, mais c'est nous qui croyons. Dieu nous aime pour qui on est, et aussi qu'on n'est que poussière. On est comme la fleur de l'herbe. Notre gloire, comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche, la gloire disparaît. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme ? Et pourtant, Dieu nous aime. Donc, acceptons de renoncer à nous-mêmes. Alors, je vous donne une anecdote pour terminer ce passage. C'était un frère qui nous l'avait dit un jour, mais j'ai beaucoup aimé cette anecdote. Que Jésus devienne notre ressource de croissance. Si Jésus est notre source de salut, qu'il soit unique, notre seule source de croissance, parce que quand il dira « misérable que je suis », juste après, au début du Romains 8, fin du chapitre 7 de Romains, « grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Nous sommes appelés à vraiment nous abandonner dans le Seigneur pour que ce soit la vie de l'esprit qui prenne le relais en nous et que nous vivions et que nous marchions par le Saint-Esprit, à la ressemblance de Jésus. Parce que Jésus veut vraiment imprimer la personne de Christ en nous pour que nous devenions le prolongement de son cœur, prolongement du cœur de Dieu, que nous devenions le prolongement de sa bouche, que nous devenions le prolongement de ses yeux, voir comme Dieu voit. Et Jésus était ému de compassion, le prolongement de ses pieds, aller là où Dieu nous attend pour glorifier son nom. Donc effectivement, cette anecdote, c'est dans un monastère, et puis il y a un supérieur qui va dire à un de ses moines, il dit, écoute, va à la tombe de, on va dire, de frère Léopoldin, comme ça personne ne se sentira visé. Il y a de moins en moins de Léopoldin, mais excusez-moi s'il y en a un, je ne vise personne. Va à la tombe de Léopoldin et tu lui diras, écoute, on est content que tu sois parti parce que vraiment tu nous as mené la vie dure dans ce monastère. Et vraiment, aujourd'hui, on respire la santé. Enfin, vraiment, on est heureux. Sans toi, c'est merveilleux. Oh là là. Alors le moine, il dit, oh non. Oui, il se trouvait ça un peu... Non, je... Obéissez. Vous connaissez les lois, des fois, dans les ordres. Ils font vœu d'obéissance. Et il comprenait, il ne voulait pas. Il dit, allez, c'est moi qui vous le dis. Puis il y va, puis bon, il lui donne tout ça. Puis il revient, il dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il te donnait la question, mais il ne m'a pas répondu. C'était une tombe. Hein. Ah, alors désormais, tu vas y retourner. Il devait se demander ce qu'il pense son supérieur, s'il avait toute sa tête. Tu vas y retourner, puis tu vas lui dire, oh là là, qu'est-ce que tu nous manques ? Oh, sans toi, plus rien ne va. Oh là là, qu'est-ce que tu étais vraiment notre rayon de soleil. Oh, il ne comprenait plus rien, le moine. Hein. Il dit, mais attends, allez, tu y vas et tu lui dis ça maintenant. Alors, il y va. Et puis, quand il revient, il dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit cette fois-ci? Il dit, rien, il est mort. Il dit, ben voilà. Voilà l'attitude que Dieu voudrait que l'on ait par rapport au bien comme par rapport au mal. C'est de renoncer à nous-mêmes. Et lorsqu'on nous blesse... Bien sûr que notre moi est blessé, c'est normal, et Dieu nous aime, et c'est respectable. Mais quoi ? Au point où nous sommes parvenus, dire l'apôtre, marchons d'un même pas. C'est-à-dire, ok, j'ai été blessé, ok, on ne m'a pas calculé, c'est vrai. Dieu m'aime, et moi je veux garder le cap. Vous savez, il y a une différence entre réagir et agir. Dieu nous a créés de nouveau, nous dit l'Écriture, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie et que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est ça la nouvelle naissance, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc effectivement, nous avons un cap, notre cap, on l'a vu au départ, c'est d'être dans notre couloir et au point où nous sommes parvenus, d'essayer de marcher d'un même pas pour atteindre l'objectif. Et si nous sommes ensemble, c'est pour nous entraider mutuellement. La disposition de cœur est hyper importante. Moi, des fois, à l'église à Musiac, par exemple, je me tiens à la sortie pour saluer les personnes. Quand, voilà. Et puis, il y a des fois, des personnes me disent « Ah, ce matin, c'était vraiment pas... On n'a pas senti l'esprit ce matin. » Non, mais je respecte. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, juste, quelqu'un vient après. « Oh là, ce matin, quelle visitation !» Si je commence à dire, mais non, l'Esprit était là, puis l'autre dire, oh, bah, j'en sors plus, que le Seigneur fasse mieux la fois prochaine. Je n'ai pas senti l'Esprit. Bah, le Seigneur est miséricordieux, la fois prochaine, il donnera au double. Puis la personne qui dit, oh, il y avait l'Esprit, comme jamais il y a eu. Bah, gloire à Dieu si vous l'avez eu comme ça, sœur. Dans les deux cas, il faut relativiser. Et tout vient de la disposition intérieure. Des fois, quand des personnes me parlent, par exemple, à Musillac, en disant, tiens, je me dis, mais est-ce qu'on est dans la même église? Parce que il y en a qui vont voir ce que Dieu fait, et d'autres vont voir ce que la chair défait. Mais nous sommes placés pour avoir un objectif, et notre objectif, c'est plaire à notre Dieu qui nous a aimés le premier, qui nous aime d'un amour éternel, et chercher à le glorifier autant que se peut, autant que se peut. Et pour cela, j'ai besoin des autres, pour atteindre mon objectif. J'ai besoin des autres, je ne peux pas me passer des autres. Donc, ni plus ni moins, on est là en support mutuel pour que chacun atteigne l'objectif et la couronne, que d'ailleurs on déposera au pied du maître, parce que c'est par sa grâce qu'il nous aura fait triompher. Mais pour recevoir cette victoire qu'on remettra à ses pieds, nous avons besoin des autres pour atteindre notre objectif. Et ça, c'est poursuivre son action. On est créé pour un but, pour glorifier Dieu. On est créé pour glorifier Dieu. Et en fin de compte, quand on tombe dans la réaction de dire « Ah !» Eh bien, on se détourne de son action. On se dit « Ah, il m'a fait ça à moi, ça passe. » Mais en fin de compte, en tombant, on tombe dans le piège de défendre une cause dont on perd son temps. Parce qu'on s'éloigne de ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais si on reste, je dis bien, entre guillemets, indifférent, ce qui ne veut pas dire pas se remettre en cause. On doit se remettre en cause d'une manière permanente et toujours être à l'écoute. Hein. Vous savez, un jour, on demande à un frère, à un frère, vous connaissez ce frère nouveau dans l'église? Il paraît bien, hein, tout ça. Je ne sais pas, je n'ai pas encore consulté sa femme. Bon. Ça veut dire qu'en fin de compte, effectivement, il faut être conscient des choses. Mais cependant, il faut être constructif. Et constructif, c'est tendre, comme les tournesols qui ont toujours les yeux fixés vers le soleil, là, sont marrants. Enfin, on doit toujours avoir les yeux rivés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et dans la sanctification, c'est qu'on est transformé en la même image de gloire en gloire et qu'on va de victoire en victoire. Et pour cela, ça fait appel à notre renoncement à nous-mêmes. Donc, à ce qui nous semble juste, à ce qui nous semble légitime. C'est pas simple, hein, mais c'est la croix. C'est à la croix que Jésus nous a délivrés de nous-mêmes. N'oubliez pas. C'est la croix qui précède la résurrection. C'est la croix qui précède la couronne de gloire. C'est la croix. Et Jésus l'a accompli pour nous, afin que nous acceptions d'y entrer. Mais c'est Jésus qui a tout remporté à notre place. Nous sommes dans une guerre dont nous en connaissons l'issue. Donc c'est extraordinaire quand même. On combat le bon combat de la foi en saisissant la vie à laquelle nous avons été appelés, sachant que le meilleur est devant nous. Et je termine par là. Jésus, notre Rédempteur. Jésus a été fait Rédempteur pour chacun d'entre nous. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. Le chrétien né de nouveau ne peut plus mourir. C'est faux, il y a des morts tout le temps. La mort, dans l'Écriture, c'est spirituel. Quand Dieu dira, ils sont morts dans leurs offenses, hein, c'est que, en fin de compte, dans le jardin d'Éden, quand on a désobéi, on s'est révolté contre Dieu, ou on s'est laissé séduire par l'ennemi pour nous révolter contre Dieu, on a été coupé de la communion. Et c'est ça la mort. C'est la séparation d'avec la source de vie. Parce que le mot éternel a été mal traduit dans nos Bibles, on devrait le traduire « je suis le vivant ». Parce que éternel, on l'est tous. Tout le monde ressuscitera, les uns pour la gloire, les autres pour la honte, les uns pour le bonheur éternel, les autres pour la condamnation éternelle. Donc éternel, on l'est tous. C'est que Dieu est le vivant, c'est toute la différence. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis celui qui suis, il est le vivant. Et donc, le fait d'avoir été séparé du Créateur et du vivant les a amenés à la mort. Séparé de la vie, c'est la mort. Et la vieillesse et la mort physique est une extension de cette mort spirituelle. Donc pour Dieu, ce n'est pas trop le problème de mourir physiquement. C'est le problème d'être mort dans nos offenses spirituellement. Et ce qui est grave pour Dieu, et c'est pour ça qu'il permet, il suscite un peuple pour aller témoigner. Je vois que vous êtes très dynamique, j'ai beaucoup aimé la louange ce matin, j'ai beaucoup aimé les prières, où on voit qu'on se soucie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je trouve ça vraiment des signes encourageants, en tout cas, à imiter. C'est qu'effectivement, ce qui est très grave, dramatique, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la seconde mort, la séparation définitive avec la source de vie. Et là, c'est terrible, parce que c'est irrémédiable, et pour l'éternité. C'est une mort éternelle. Donc, effectivement, la mort physique, le chrétien ne meurt plus. Il se repose de ses œuvres. Alors, oui, la mort physique, mais dans le sens que c'est une conséquence de notre mort première spirituelle que Dieu n'a pas effacée pour un temps. Par contre, il efface par la nouvelle naissance la seconde mort, cette séparation définitive avec Dieu, on peut y échapper par la nouvelle naissance. Par contre, cette mort physique qui accompagne la première mort spirituelle, celle-ci, chrétien ou pas, on en subit tous ses conséquences. Donc le chrétien, dans le sens spirituel, ne meurt pas. Mais il entre dans le repos en attendant, qu'est-ce qu'il attend ? Comme nous, que l'on veille, que l'on soit encore en vie, ou que l'on se repose de ses œuvres dans ce lieu de repos, de félicité, le sein d'Abraham, dans le paradis, qu'est-ce qu'on attend ? On attend tous le premier retour de Jésus. On attend, on l'a vu aussi ce matin, c'est vrai, de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, il reviendra. Et nous attendons tous son retour, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, dira Job, et qu'il se lèvera au dernier jour. Et nous attendons tous son retour, ceux qui sont, on va dire, morts, s'il vous plaît, mais qui se reposent de leurs œuvres, ou ceux qui sont encore en vie, en attend d'un commun accord. Vous savez, nous, on peut attendre la retraite en plus. Eux n'attendent plus la retraite. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est le retour de Jésus. Comprenez ? Donc, la principale priorité qu'on devrait attendre, nous tous, c'est le retour de Jésus. Alors, certains diraient, j'attends de me marier quand même, j'attends d'avoir des enfants, j'attends... Et c'est légitime. Mais, ok, on peut attendre ça en plus, on est sur Terre, on est obligé de vivre avec, bien évidemment, et ce n'est pas une contrainte, bien au contraire, on aime la vie, le chrétien est appelé à aimer la vie. Mais, il attend avant tout le retour de son maître. Et ceux qui se reposent, ils n'attendent qu'une seule chose. Ah, ils n'attendent plus la retraite, le mariage, etc. C'est fini. Ils attendent le retour de Jésus. Il revient et il revient bientôt. Seigneur, viens. Alors, Colossiens nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le retour de Jésus, c'est dans la mesure où Jésus est sauveur, qu'il devient Seigneur. Jésus ne peut pas être notre Seigneur s'il n'est pas d'abord était notre sauveur. Mais il restera notre Seigneur, il restera notre sauveur que s'il a été Seigneur toute notre vie durant. On dit, Jésus est mon sauveur, ok, mais si Jésus n'est pas notre Seigneur, on aura pu être utilisé par Dieu. N'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas, ok, mais peut-être pas approuvé du Seigneur. C'est deux choses différentes. À cause de notre foi, de ce qui est la foi, n'oubliez pas, la foi divine, on a la même foi qu'Abraham, hein. Pas la même mesure, je vous l'accorde, hein. Mais la même nature. La foi qu'avait Abraham, c'était la foi divine. Nous avons la foi divine. Nous pouvons être utilisés par Dieu, mais pas forcément approuvés de Dieu. Donc effectivement, si Jésus, notre Sauveur, demeure notre Seigneur toute notre vie durant, il demeurera notre Sauveur pour l'éternité. Alors je lis juste un pamphlet d'un pasteur qui est décédé il y a bien des années, puisqu'il est né en 1595, il est mort en 1669, et c'est des adieux triomphants. Je termine par là pour dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On est les gens les plus heureux de la terre. Et je le dis souvent dans mes prières parce que je le crois. On est les gens les plus heureux de la terre. Vous savez, quelqu'un qui a Christ et qui n'a rien, il a tout. Quelqu'un qui a tout et qui n'a pas Christ, il n'a rien. Un sonnet écrit au temps du roi Louis XIV. Adieu mes chers parents, mes amis précieux. Je monte vers mon Dieu, je m'en vais vers mon Père. Les combats sont finis, je sors de la misère, c'était sur son lit de mort, et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Essuyez par la foi les larmes de vos yeux, bannissez de vos cœurs toute douleur amère, et si jamais pour moi votre amour fut sincère, alors contemplez mon bonheur et soyez-en heureux. Ah, que mon sort est beau, qu'il est digne d'envie, je passe par la mort au séjour de la vie, et je ne perds en mourant que la mortalité. Suivez Christ et toujours demeurer lui fidèle. Si la mort désunit pour un temps limité, Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole. Elle nous rappelle qu'en toi, nous avons tout pleinement et que nous pouvons toutes choses. Nous te demandons pardon, Seigneur, parfois pour notre attitude intérieure, notre disposition. Et nous te demandons de nous aider à croire en toi et plus en nous-mêmes et accepter de renoncer à notre moi, à notre ego, pour vraiment vivre de ta vie divine. Nous voulons aimer de ton amour. Nous voulons agir par ta force. Nous voulons accomplir ce dont pourquoi tu nous as créés de nouveau et ce qui, avant la fondation d'un monde, tu avais préparé pour notre destinée, pour notre vie. Rends-nous humbles, Seigneur, mais rends-nous aussi obéissants. Rends-nous obéissants, mais rends-nous aussi persévérants et hardis dans l'obéissance. Que ta grâce, qui a commencé cette œuvre en chacun de nous, puisse la poursuivre inlassablement, afin que nos progrès soient évidents pour toi, pour nous et pour tous. Et que nous puissions être transformés en la même image, de gloire en gloire, et que nous puissions aller de victoire en victoire. Seigneur, tu marches devant nous, tu es la lumière de ce monde et précisément la nôtre. Combien nous sommes heureux de t'appartenir, d'avoir nos noms inscrits dans ton livre de vie. Quel bonheur, quelle grâce, quelle joie, quelle est belle ta famille, que je suis beau au sein de cette famille. Nous sommes vraiment un beau peuple, une race bénie, une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes des gens merveilleux par ta grâce et ta miséricorde. Mais seulement par ta grâce et ta miséricorde. Alors, rends-nous toujours plus humbles et rends-nous toujours plus vraiment affamés, assoiffés et zélés à ton service, par la puissance de ton Esprit Saint et dans le précieux nom de ton Fils par qui tu nous as tout donné pour le temps présent et pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.